Aujourd'hui, on vous parle de ce qui se passe quand on n'a plus le temps de jouer. On revient sur le Nintendo Direct du 8 mars et Lou est en vacances.
C'est la cartouche sur Radio Kawa.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, épisode 14, le podcast Radio Kawa qui se plonge dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder, à chaque épisode je suis accompagné de mon comparse Lou Lassina-Foubert, mais comme il est absent cette semaine, c'est un vieux camarade qui est monté au créneau à speak de ton nom Arnaud Condé. Salut Arnaud.
Hello, salut.
Alors on se parle par nos prénoms, tu n'en as pas l'habitude Arnaud dans
j'ai
les
podcasts. J'ai pas du tout l'habitude, Yann.
Voilà.
Je m'exerce, Yann.
C'est pas du tout naturel.
C'est pas du tout naturel du tout. Non.
Notre collaboration podcastique la plus actuelle, pour être très clair, c'est Presse Occulte qu'on fait tous les deux mois pour Game Cult.
Oui.
Sur le premium de Game Cult, donc une émission dédiée aux médias et aux jeux vidéo. Ça sort tous les deux mois, je le disais. C'est sur le premium, je le disais aussi. Tu en fais tout l'aspect réalisation, montage, mixage. Et je m'occupe de la présentation, préparation, etc.
Oui.
Voilà, ça c'est notre
c'est
petite.
Ça. J'ai fait la musique aussi, le générique.
Oui, absolument. Notre petite actualité commune, voilà. Puisque notre ami Julien Escalias, alias le Mago, qui a fait la voix sur ce jingle. Au sommaire de cet épisode de La Cartouche, un dossier consacré à qu'est-ce qui se passe quand on est joueur, quand on n'a plus le temps de jouer. C'est aussi pour ça qu'Arnaud est là aujourd'hui.
C'est moi.
Et puis le patch, durant lequel nous ferons le suivi de sujets traités lors de précédents épisodes et où nous répondrons également à vos questions, celles que vous avez envoyées à @lacartoucherk sur Twitter, ainsi que lacartouche@radiokawa.com par mail. Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'actualité. Et l'actualité commence, mon cher Arnaud, avec le Nintendo Direct du 8 mars 2018. Et bah c'est un petit problème parce qu'on enregistre cet épisode le 7 mars au soir.
Bah oui, c'est demain.
Nintendo a annoncé, alors pour nous, aujourd'hui, cet après-midi, un Nintendo Direct qu'on n'a donc pas encore eu l'occasion de voir. Heureusement, mon cher Arnaud, je peux voyager dans le temps. La cartouche a sa machine à voyager dans le temps. Voici donc mon avis sur les annonces du 8 mars, enregistrées le 8 mars, juste après les annonces.
Salut, c'est Yann du lendemain de ce que vous venez d'entendre à l'instant et j'ai vu le Nintendo Direct du 8 mars. Je suis tombé malade aussi entre temps, ce qui explique un peu ma voix. Et il y a eu de grosses annonces, en tout cas des choses assez chouettes, même s'il y a beaucoup évidemment de transferts, que ce soit d'anciennes consoles Nintendo ou de jeux déjà sortis sur d'autres supports. Ça reste quand même très intéressant sur plein d'aspects. On va commencer avec la 3DS, on va vraiment le faire dans l'ordre chronologique, avec WarioWare Gold, qui est une compilation façon Rhythm Paradise Megamix sur 3DS. Donc là aussi, c'est sur 3DS, ça sort le 27 juillet. Il y a beaucoup de mini-jeux WarioWare refaits, et puis il y a un certain nombre d'inédits également qui sont ajoutés. Dylan Dead Breaker, c'est Dylan, le petit jeu dans lequel, un peu Far West, voilà, c'est une suite qui sort le 25 mai. Très honnêtement, je ne suis pas assez intéressé par la chose pour vous en dire beaucoup. C'est passé très très vite. On nous a présenté ça assez rapidement. Mario & Luigi 3, donc Voyage au centre de Bowser, revient avec un mode bonus, tout comme le remake du premier Mario & Luigi qui est également sorti sur 3DS l'année dernière. Ce qui donne un rôle un peu bizarre à Partners in Time, qui est le deuxième Mario & Luigi, l'épisode DS, premier en date, qui bah, du coup n'est pas refait. Et fun fact, il sortira en 2019, ce Mario & Luigi Voyage au centre de Bowser pour 3DS. Donc visiblement, Nintendo prévoit des jeux 3DS pour 2019. On est comme ça. Détective Pikachu sort le 23 mars et c'était à l'occasion pour Nintendo de le rappeler, donc voilà, hein, allons-y. Et puis, alors, vous n'avez pas eu d'annonce pour une console virtuelle GameCube ou une console virtuelle tout court d'ailleurs pour la Switch, désolé. Par contre, Luigi's Mansion le premier revient sur 3DS, bah ouais, en 2018 tout simplement. Donc voilà, comme ça on le sait, il est là s'il vous intéresse, très honnêtement, je préférerais que ce soit une console virtuelle GameCube, mais bon, voilà, si vous voulez le jeu et que vous n'avez pas d'autre moyen de l'avoir, que le prix en loose, que le prix en occasion, il monte beaucoup trop à cause de la spéculation sur les jeux rétro, ça peut être un moyen intéressant. Un petit rappel sur Kirby Star Allies qui sort le 16 mars, petit rappel, voilà, très très marketing, en nous indiquant d'ailleurs qu'il y aura des mises à jour gratuites avec des personnages d'anciens jeux Kirby dès le 28 mars, donc du DLC gratos pour Kirby Star Allies dès le 28 mars. Okami HD va sortir sur l'eShop ou Switch dès cet été. Voilà, on n'en sait pas particulièrement plus, c'est Okami HD qui sort sur Switch. Sushi Striker, c'est un jeu qui avait leaké, il y avait deux choses qui avaient leaké avant la conférence, c'était ça et quelques screenshots de Mario Tennis Aces ainsi que la boîte du jeu. Sushi Striker, voilà, c'est un jeu avec des sushis, on se les envoie à travers la tronche. Ça sort également sur 3DS et ça sort le 8 juin sur les deux supports Switch et 3DS. Octopath Traveler, le RPG de nos amis de Square Enix, sort le 13 juillet. C'est le nom définitif, Octopath Traveler. Ils ont juste enlevé projet dans le nom. Voilà, donc comme ça, on est calé. Deux nouveaux personnages d'ailleurs ont été présentés lors de ce Nintendo Direct. On a enfin eu quelques images de Travis Strikes Again, No More Heroes, avec donc 7 jeux dans le jeu, 7 settings un petit peu différents pour Travis Touchdown, qui doit aller exterminer les bugs de jeux vidéo ici et là. C'est du beat'em all, ça sort en 2018, voilà, ce qui est quand même intéressant, notable à souligner. Concernant Dark Souls Remastered, qui était présenté lors du dernier Nintendo Direct, eh bien il sortira le 25 mai, et un amiibo Praise the Sun sera distribué à la sortie du jeu. Un test réseau sera effectué sur l'eShop avant le lancement du 25 mai, donc à un certain moment il y aura une démo qui vous permettra de tester un petit peu tout ça et de leur permettre de faire un stress test de leur infrastructure réseau. Mario Tennis Aces, donc c'est 15 persos dont Chomp Chomp, ce qui est quand même, je trouve, assez chouette d'avoir fait un character design avec cet énorme monstre qui va porter là, qui est entre ses dents. Le gameplay est basé autour d'une jauge d'énergie qui se remplit au fil des échanges et qui vous permet de lancer des attaques spéciales. Visiblement, il n'y a pas d'attaque cheatée imparable, c'est une bonne nouvelle. Si on a le bon timing, on peut bloquer une attaque puissante sans aucun problème, enfin sans aucune pénalité pour le personnage, le joueur ou sa raquette. La raquette qui peut s'user et qui peut se briser, ce qui équivaut d'ailleurs à perdre la partie si on se fait flinguer sa raquette. Il est également possible de jouer en mode classique qui n'a pas les raquettes brisables et qui n'a pas non plus les attaques spéciales ou la jauge d'énergie à charger au fur et à mesure des échanges. Des personnages et des tenues sont à débloquer au fur et à mesure, notamment avec des tournois en ligne. Il sera possible de jouer en motion control, mais pas obligé. Ça rappelle fortement Wii Sports, pour être très honnête. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet comme celui-là qui est prévu. Le jeu sort le 22 juin. Il y aura là aussi un tournoi de pré-lancement prochainement. Captain Toad Treasure Tracker, le jeu Wii U, va sortir sur Nintendo Switch avec des niveaux Mario Odyssey en bonus. Une version 3DS est également prévue, il n'y a pas de date. Par contre, sur la version Switch, il y a une date et c'est le 13 juillet. Pas de date du tout, c'est également le cas de Undertale qui va sortir sur Switch après être sorti sur PS4. Et alors là, vous vous dites tout de suite, c'est un petit peu terrible pour la Xbox One qui n'a pas le jeu. Eh bien, la Xbox One n'a pas non plus Crash Bandicoot Trilogy. Et pourtant, la Switch va l'avoir le 10 juillet. Alors, pour bien avoir regardé les images, ça ressemble à du 30 images par seconde. Ça ressemble à du gros compromis entre visuel et performance. Visiblement, ils sont plus mis du côté visuel que du côté performance. Je trouve ça un petit peu dommage à voir quand le jeu sortira vraiment. Peut-être que c'était simplement une build de départ. Mais voilà la situation actuelle avec Crash Bandicoot Trilogy, de ce qu'on en voit, de ce qu'on en sait. Little Nightmares Complete Edition, un jeu à la Limbo Inside, édité par Namco, va sortir le 18 mai sur Switch. South Park The Fracture Butthole, longtemps en rumeur, va également sortir sur Nintendo Switch assez tôt, le 24 avril, donc dans pas si longtemps que ça, dans un peu moins de 2 mois maintenant, avec le Season Pass, les 3 packs de DLC. Les 2 premiers packs de DLC seront disponibles à la sortie, à l'achat, ou alors dans le Season Pass, puis le 3e pack sortira plus tard. Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch a une date, c'est le 18 mai. ARMS, 3e test punch, donc 3e occasion de jouer au jeu gratuitement, le 31 mai. Splatoon 2 avec une update, la V3.0 fin avril, avec de l'équipement, 3 nouveaux stages et le rang X, qui est un rang supérieur au rang S+, et puis du DLC payant également. Jusque là, tout le DLC Splatoon 2 a été gratuit, du DLC payant avec Octo Expansion, un mode solo qui, comment dire, a l'air d'avoir toute une interface et toute une façon d'explorer un nouvel univers différent, avec plutôt une carte, on va dire, assez évolutive, façon réseau de métro, plutôt que ce qu'on a connu jusque-là avec les modes solo de Splatoon. Toutefois, les niveaux ont l'air assez traditionnels, les niveaux du mode solo. Ce sera payant et ça sortira cet été. Enfin, on nous a fait le coup de nous remontrer des images, les images un petit peu CG, vraiment visuelles, dessins animés, qu'on nous avait présenté au premier reveal de Splatoon. Rappelez-vous, c'était il y a des années pour la Wii U. On nous montre ces images donc de l'équipe orange et de l'équipe bleue qui se bat, qui se jette de l'encre, et puis soudainement, la lumière s'éteint. Ça zoome sur un des Inklings de Splatoon, une Inkling orange fille. Ça zoome dans l'œil, et dans l'œil, on voit quoi ? On voit un logo Smash. Et là, champ contre champ, on voit ce que Linklin Fee a fini par voir, c'est-à-dire un énorme logo Smash brûlant de mille feux dans les cieux, avec des personnages Nintendo un petit peu dans l'ombre, à contre-jour de cet énorme logo Smash, y compris d'ailleurs, apparemment, un Link de Breath of the Wild. Alors du coup, la question se pose, est-ce que ce Smash Bros est simplement le Smash Bros Wii U en version de luxe, peut-être avec des nouveaux personnages, dont le Link de Breath of the Wild, et donc forcément, vu qu'on nous montre les Inklings de Splatoon, les Inklings de Splatoon, ou s'agit-il d'un nouveau Smash Bros ? La communication, le communiqué de presse de Nintendo qui est sorti peu après la conférence de Nintendo Direct, ne révèle rien de tout ça, préfère rester vague. Si c'est vague, c'est probablement qu'il y a un loup, autrement dit, c'est probablement une version de luxe plutôt qu'un titre inédit. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas tranché, mais c'est mon pressentiment. Et la petite surprise qui va bien, c'est que Super Smash Bros. Sur Switch, ça sort en 2018, d'après ce premier teaser. Voilà, donc dramatique façon de terminer. Certains s'attendaient à du DLC pour Mario Odyssey. Il n'y en a pas eu. Certains s'attendaient à des nouvelles concernant l'OS, concernant le mode en ligne, concernant, je ne sais pas, la console virtuelle. Il n'y en a pas eu non plus, mais on a eu pas mal de jeux, je pense. Allez, on retourne à l'épisode avec un Yann qui a une bien meilleure voix. Nous sommes de retour. Alors, les annonces étaient absolument extraordinaires, je pense.
Ah oui, c'était génial.
On ne sait pas ce que c'est, mais on n'est pas déçu. Et peut-être que je suis déçu dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on imagine qu'on n'est pas déçu. Très bien. Écoute, on va attaquer le reste de l'actualité et ça commence par le SRB. Est-ce que tu sais ce que c'est le SRB, Arnaud ?
C'est pas le machin qui dit genre Peggy 18.
Alors, non. C'est l'équivalent américain de la PEGI, donc l'institution qui s'occupe effectivement de noter en termes d'âge et également de déclarer les contenus. Est-ce qu'il y a de l'alcool ? Est-ce qu'il y a du jeu d'argent ?
C'est
est-ce qu'il y a du sexe ?
Le CSA du jeu vidéo, quoi. Mais version américaine.
En quelque sorte, mais il n'y a pas véritablement de pouvoir punitif pour une raison qui est d'ailleurs très très amusante, c'est que le SRB, son comité, il est formé justement des grandes entreprises du jeu vidéo, des grands éditeurs, des grands constructeurs de consoles. Le SRB donc ne considère officiellement pas les lootbox comme du jeu d'argent. C'était un truc qui a été déclaré relativement récemment par les porte-paroles de l'entité, mais fera tout de même l'effort d'inclure dans sa signalétique une mention achat possible dans le jeu. Alors c'est contourner le problème puisque ça ne concerne pas que les lootbox, mais tous les DLC, les season pass, les microtransactions, bref, n'importe quoi que tu peux acheter, ta petite décoration pour ton cheval dans Morrowind, n'importe quoi. Sous prétexte que les parents, et là je cite la présidente de l'ESRB, Patricia Vance, les parents ont besoin d'informations simples. On ne peut pas les noyer sous le détail. C'est donc très important pour elle de ne pas se concentrer sur les lootbox. Pour rappeler un petit peu la polémique autour des lootbox, c'était donc que on peut débloquer du contenu de manière aléatoire en mettant de l'argent et en espérant tomber sur ce qu'on voulait. Un exemple classique et que tu as vécu, mon cher Arnaud, c'est évidemment Team Fortress 2 avec les chapeaux.
Les chapeaux, les caisses aussi, non ? Il y avait
exactement.
Des cadeaux.
Les caisses à débloquer avec une clé que tu achètes et tu ne connais pas le contenu, donc tu ne connais pas la valeur de ce que tu payes.
Ouais, c'est
tout le principe de la loot box. Et c'est devenu de plus en plus polémique quand des jeux comme Battlefront 2...
Parce qu'avant, c'était pour des jeux gratuits.
Voilà.
Et ça finançait le jeu, alors que maintenant que les jeux sont payants et qu'on fait en plus payer la fin des jeux, les DLC, tous les trucs comme ça, et qu'en plus il y a les lootbox, c'est encore pire.
Ça fait également partie de la polémique. Donc là, la solution de l'ESRB, c'est de mettre une étiquette. Attention, en achetant ce jeu-là, vous allez avoir la possibilité de payer encore plus, mais sans préciser si c'est de l'aléatoire et vous ne savez pas ce que vous allez acheter, ou du DLC et vous avez une certaine idée, même si évidemment elle est cachée derrière le marketing et les arguments publicitaires qui sont mis derrière. Vous savez plus ou moins ce qui est derrière votre achat. Le SRB est composé de gros éditeurs, de fabricants de consoles, donc c'est un équilibre difficile à trouver pour l'entité qui ménage à la fois la polémique, l'inquiétude qui est née ces derniers temps, notamment avec des jeux comme Star Wars Battlefront 2, et en même temps leur intérêt propre d'éditeur, de constructeur, qui est que ces pratiques-là continuent à se produire tout simplement et à leur apporter l'argent, puisque contrairement justement au CSA, il y a une ambition plus faible en termes d'indépendance. Le CSA, est-ce qu'il est indépendant ? C'est une grande question à laquelle on n'aura pas le temps de répondre maintenant, mais est-ce qu'il a l'ambition d'indépendance ? Oui, le SRB en termes d'indépendance.
Oui, voilà, et puis les États-Unis aussi.
En fait, le SRB a plus, comme la PEG d'ailleurs, a plus tendance à vouloir être neutre, fair play d'un acteur à un autre et à lui appliquer la même politique pour le bien général des éditeurs de ce qu'on appelle les logiciels de loisirs, d'entertainment, etc., les éditeurs de jeux vidéo, plutôt que de dire on va faire quelque chose qui soit complètement pour le public. L'intérêt principal, on rappelle, le SRB, il a été créé à cause de toute la polémique que des jeux violents à l'époque Super NES Mega Drive créaient. Le sang dans Mortal Kombat, ce genre de choses. Et c'est pour défendre cet intérêt-là, pour éviter que le législateur, c'est-à-dire le Congrès américain, se mette à restreindre la vente de certaines choses, que l'industrie s'est autorégulée. Avec l'autorégulation, on n'a pas forcément la même, le même souci du consommateur. Voilà.
C'était, oui, donc c'était un truc positif au départ qui, évidemment, maintenant est devenu un truc de gros sous.
Tu parles de l'ESRB ?
Oui.
Ça a toujours été un truc de gros sous, en fait. C'est simplement que la problématique n'était pas la même, le problème à régler n'était pas le même, et là, très clairement, c'est plus compliqué pour l'ESRB de réguler quelque chose qui touche directement au porte-monnaie des gens qui sont dedans. Ça, c'est très clair. Voilà. Bon. Du côté de Microsoft maintenant et de la Xbox One, bonne nouvelle si vous avez une Xbox One et des jeux Xbox 360, puisque de nouveaux jeux sont désormais rétro-compatibles avec la One. On cite notamment The Witcher 2, Forza Horizon, Fable Anniversary ou encore Crackdown. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité, alors elle est plaisante, moi j'aime beaucoup ça, donc la Xbox One X, il est possible désormais de dire est-ce qu'on va optimiser pour l'aspect graphique ou est-ce qu'on va optimiser pour les performances. C'est très chouette. Ceci dit, il y a un point de formulation qui est très important, puisque là je vais faire un petit peu d'anglais, ils disent donc make this game look better, donc dans tous les cas on va rendre le jeu, on va faire en sorte qu'il ait l'air mieux, qu'il ait une meilleure apparence, qu'il soit plus joli, et de l'autre côté l'option pour les performances c'est can make game play smoother, ça peut rendre les jeux plus fluides, et le peut est le monde de différence en fait, parce qu'on dit ah les performances peuvent être potentiellement meilleures. C'est assez délicat justement de placer le curseur de ce côté-là. Est-ce qu'on va attendre du 60 FPS à chaque fois ? C'est pas forcément...
C'est logique, hein, ça reste logique. Cas. C'est toujours facile de mettre une petite accentuation, un petit machin pour que ça rende mieux, alors que par contre, faire vraiment que ça soit smooth... Bon.
C'est beaucoup de taf, et là, clairement, ils préfèrent prendre les pincettes. Au moins, c'est honnête. Oui. On leur reconnaîtra ça. J'ai hâte de voir des tests de Digital Foundry pour voir un petit peu ce que ça donnera. Enfin, voilà, cette fonctionnalité-là, si vous avez une Xbox One X, va apparaître avec la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 sur votre One X. Donc, c'est intéressant, très honnêtement. Jetez-y un œil, parce que c'est vraiment planqué dans un sous-menu. Le billet de blog que je vais d'ailleurs linker, le billet de blog Major Nelson, donc le mec qui anime la communauté Xbox depuis des décennies maintenant. Vous allez pouvoir voir un petit peu justement un screenshot de ça. Et ouais, voilà, c'est planqué dans un sous-menu. Prêtez-y attention. En parlant de planqué dans un sous-menu, dans des conditions, dans des annonces cryptiques balancées une année à l'avance, Sony change sa politique pour le PlayStation Plus. Est-ce que tu sais ce que c'est l'abonnement PlayStation Plus
J'en ai aucune idée. C'est faux parce que j'ai le conducteur sous les yeux, mais en vrai, j'en ai aucune idée.
Tu ne savais pas, très bien. Alors pour ceux qui ne savent pas non plus, le PlayStation Plus, c'est un abonnement qui permet de recevoir des jeux gratuits. Pour peu que tu continues à payer l'abonnement, tu peux continuer à accéder à ces jeux-là. Donc en fait, plus longtemps tu es dans le système PlayStation Plus, plus longtemps tu vas accumuler de jeux que tu vas pouvoir jouer, et tant que tu payes,
tu ne joueras pas parce que tu n'auras pas le temps au final, hein, comme tous les trucs gratuits avec abonnement.
Ça s'appelle le syndrome Netflix.
Voilà, c'est
combien de films sont dans votre watchlist que vous n'avez pas encore vu ? Ma réponse est beaucoup trop. Et donc, jusqu'à maintenant, étant donné la sortie de la PlayStation 4, mais aussi la PlayStation 3 et la PlayStation Vita qui étaient déjà sorties au moment où le service a été lancé, chaque mois, deux jeux PlayStation 4, puis deux jeux PS3, et également deux jeux PlayStation Vita. Eh bien, ce ne sera plus le cas à partir de mars 2019, qui marquera la fin des jeux PlayStation 3 et PlayStation Vita offerts avec votre nouveau mois d'abonnement PlayStation Plus. Aussi parce que le catalogue, il commence à être limité, et ajouter des nouveaux jeux PlayStation 3 et Vita, alors qu'il n'y a plus beaucoup de jeux qui sortent sur cette plateforme-là, c'est un peu compliqué. Et donc, de 6 jeux par mois à partir de mars 2019, d'après ce qu'annonce Sony à ce stade, on va retomber à 2 jeux par mois. Il n'y aura pas plus de jeux PlayStation 4 qui seront ajoutés pour compenser. Simplement 2 nouveaux jeux PlayStation 4 à partir de mars 2019. Donc vous avez un an pour reconsidérer votre abonnement si jamais c'est un problème pour vous.
On en est toujours à la Vita pour la console portable de
chez Sony ? Oui, alors pour l'instant on en est à... Elle est mortonnée, c'est-à-dire qu'en fait la PlayStation Vita en termes de place dans le catalogue de Sony, il est à peu près au même endroit que Windows Phone chez Microsoft.
Oui, c'est ça, mais ça a marché parce qu'on pouvait, on pouvait pas la, la hacker un peu, faire tourner plein de trucs dessus dans des émulateurs.
C'était surtout la PSP, en fait. C'était surtout la PSP. Ouais. La Vita, il y a également pas mal d'homebrew qui est possible, mais pas de manière aussi simple que la PlayStation Portable qui, sur la fin de sa carrière, tu n'avais même plus besoin de flasher le firmware pour pouvoir lancer un émulateur. C'est-à-dire que tu copiais juste le bon fichier, le bon dossier sur ta mémoristique propriétaire de chez Sony, tu l'insérais dans ta PSP et je l'ai fait d'ailleurs, venez me chercher et tu pouvais lancer ton émulateur Game Boy
évidemment ils n'ont pas rendu le truc légal, ça aurait été trop beau.
Rendu le truc légal, c'est-à-dire
bah, le fait de pouvoir flasher la console.
Ah, mais honnêtement, tu n'en as même pas besoin pour la PSP et pour la Vita, il n'y a aucun intérêt pour eux de le faire. Je veux dire, ils vont continuer à en vendre même si c'est quelques centaines par semaine. Ça reste une petite marge appréciable. Il y a des palettes qui continuent à s'en vendre lentement, mais quand même, notamment au Japon. Donc non, ils vont absolument pas encourager une méthode qui permet de pirater leur propre support, ça c'est clair. Ce serait assez scandaleux. D'ailleurs, généralement, peu importe la situation, mais les éditeurs, les constructeurs poursuivent les entreprises qui se lancent dans ce genre de pratique-là. On se souvient notamment de Nintendo qui avait coursé à la fois les éditeurs de cartouches R4 qui permettaient d'insérer une carte SD dans la DS et d'y mettre à peu près ce qu'on voulait, et également les boutiques françaises qui les distribuaient.
Ouais.
Donc les actions en justice, ça prend parfois du temps parce que la justice est lente, moins pour les entreprises, mais la justice est lente, et ça prend parfois du temps, mais ça arrive. Et non, très honnêtement, Sony n'ouvrira pas, à mon avis, la PlayStation Vita au homebrew en mode cadeau. C'est bon, on a abandonné le délire. Ça m'étonnerait beaucoup que ça se passe comme ça. Microsoft, bah on va finir sur Microsoft en ce qui concerne les news, vraiment news, puisque Microsoft se prépare à communiquer façon Nintendo Direct. Surprise, stupeur, après des années que Nintendo fasse des Nintendo Direct. Et reprenant d'ailleurs un nom de marque déjà utilisé auparavant, notamment à l'époque de la Xbox 360, les Nintendo Direct à la sauce Xbox s'appelleront Inside Xbox. Ça commence le 10 mars, et le principe c'est celui d'un stream avec des annonces, mais aussi un moyen pour Microsoft d'en remettre une couche sur les jeux du mois, car oui, Microsoft ne veut pas fonctionner sur le système de coup médiatique façon Nintendo, mais sur celui du rendez-vous mensuel, en quelque sorte familial, communautaire, pour toutes les personnes qui ont une Xbox ou qui s'intéressent aux jeux sur machine Microsoft.
Allez les enfants, on va regarder le Inside Xbox tous ensemble en famille, oh oui.
Bah en plus c'est possible, puisque ce sera samedi 10 mars à 21h, donc invitez grand-papa et grand-maman, vous pourrez le regarder sur Mixer, la plateforme de stream de Microsoft, ou sur votre Xbox One, ou sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur Twitter, ou sur Twitch.
Alors attends. Ah ouais, samedi prochain à 21h, je vais regarder Inside Xbox. Personne, jamais.
Ah bah non. Non. Je suis certain qu'il y a une bonne partie, toutes les personnes en fait, qui ont fait de la Xbox One leur console principale sur cette génération.
Mais ils font des trucs le samedi soir, les gens.
Mais ils peuvent le mater plus tard en replay, voyons.
Ah,
bah, bien sûr. Bah s'ils le font sur YouTube, en même temps, je vois pas l'intérêt de faire que du live, tu vois.
C'est
une plateforme de live décente, mais l'avantage c'est l'archivage et la publication quelques minutes après sur YouTube. Donc non, très honnêtement, l'idée d'avoir un rendez-vous comme ça, moi je trouve intéressant. L'approche communautaire, on va en remettre une couche sur les jeux qu'on a déjà annoncés et qui sortent dans le même mois. Je me méfierais parce que ça va réduire l'attention des journalistes, ça va réduire également l'attention des joueurs qui vont vouloir de la news, qui vont vouloir du mégaton. Donc je me demande vraiment si ça va marcher. Une bonne méthode de compensation, c'est de la jouer peut-être un petit peu Twitch, avec oh là là, vous allez pouvoir avoir des petits bonus, genre un avatar supplémentaire ou une connerie comme ça, un micro DLC gratuit offert si vous matez le truc. Ça peut être un moyen de forcer les gens à regarder ta publicité de 30 minutes, je vois pas comment est-ce que tu arrives à concentrer autant l'attention que pour un programme comme un Nintendo Direct qui est littéralement venez, on annonce des trucs que vous n'avez pas vu encore, à un public qui est captif de la marque. Donc voilà, ça reste vraiment à voir sur ce que ça va donner, et si c'est intéressant, on en parlera au prochain épisode de la cartouche. Et puis, une fois n'est pas coutume, alors pas de dossier review, donc c'est décalé un petit peu ici, Nintendo a sorti une démo de Kirby. Ce qui est rare, une démo pour un gros jeu Nintendo, c'est pas souvent. Kirby Star Allies sur Switch, donc je vais t'en parler un petit peu, mon cher Arnaud, si jamais ça t'intéresse. Est-ce que tu as une Switch d'ailleurs ?
Toujours pas.
Toujours pas, mais...
Et j'ai toujours pas d'écran sur laquelle la brancher à part mon écran d'ordi, et j'y suis peu, donc non.
Et bah écoute, c'est ce que je fais, pourtant, moi, elle est branchée à l'écran.
Mais c'est vrai qu'elle marche aussi en console portable, ouais, mais bon,
il y a ça aussi,
trop de trucs à acheter avant.
Kirby Star Allies, donc, ça sort sur Switch le 16 mars. On fera probablement, je ferai probablement une review pour la cartouche lors d'un des prochains numéros. C'est développé par HAL Software. Ça sort au prix complet pour la Switch, c'est-à-dire autour des 60 balles. Et ben, mi figue mi raisin pour cette démo. Il y a deux niveaux dedans. Probablement le premier niveau, vous allez dans la forêt, vous allez combattre le boss habituel de Kirby du premier monde, Wispy Woods, donc l'arbre. Car dans Kirby, on combat des arbres, et puis un deuxième niveau avec un petit peu de souterrain, un petit peu de plage, un petit peu de tout. La physique est pas taude, c'est le premier truc que j'ai remarqué. Alors, le jeu est 30 images par seconde, et c'est rare sur Switch qu'on ait des jeux 30 FPS aujourd'hui. On a énormément de jeux 60 FPS, la seule exception c'est Zelda, Zelda en open world, Zelda qui demande beaucoup de choses. Donc finalement, c'était l'exception qui était un petit peu tolérable. Là, Kirby, jeu de plateforme 2D en 30 images par seconde, c'est dommage. D'ailleurs, ce qui est d'autant plus dommage pour un jeu comme Kirby qui est censé être très approchable, c'est que le tuto est très répétitif. On t'explique à chaque fois, alors ce bouton-là, il sert à ça, ce bouton-là, il sert à ça, ce bouton-là, il sert à séduire un ennemi pour qu'il devienne un ami. Sur la structure générale du jeu, l'idée, le pitch, c'est un peu Kirby and the Amazing Mirror sur Game Boy Advance pour ceux qui l'ont fait. Donc l'idée, c'est que vous n'allez pas être seul dans votre aventure Kirby, vous allez pouvoir être rejoint par d'autres personnages. Alors dans Kirby Amazing Mirror sur GBA, c'était d'autres Kirby que vous pouviez croiser en explorant le monde. Dans celui-là, c'est beaucoup plus linéaire, les niveaux sont beaucoup plus linéaires, et au lieu d'avoir d'autres Kirby, ça va être des ennemis. Vous allez pouvoir leur lancer un cœur de l'amitié. Car on est comme ça chez Kirby, on a des expressions et des items très très mignons. Et ce cœur de l'amitié vous permet de dire « Toi, ennemi qui crache des flammes, tu vas me rejoindre et tu vas mettre tes flammes au service du bien. » Et donc, jusqu'à 4 peuvent rejoindre. Évidemment, si vous jouez en multilocal pour avancer l'aventure, eh ben, au lieu d'avoir des bots, vous allez avoir des joueurs normaux qui vont prendre ces rôles-là. Chacun a sa petite barre de vie, donc il faut faire gaffe, si on veut conserver le pouvoir du pote, bah, faire en sorte que le pote en question, bah, il soit pas trop mal. Il n'ait pas sa barre de vie qui descende trop bas. C'est dommage, si on continue la comparaison avec Kirby Amazing Mirror, parce qu'on n'a pas du tout l'aspect open world, niveau à plusieurs fins, on explore une carte, on débloque les trucs au fur et à mesure. Là, c'est vraiment du jeu de plateforme extrêmement linéaire, niveau après niveau, ce qui est sacrément dommage à mon avis, puisque c'était un des meilleurs gimmicks d'un jeu Kirby à jamais, et il n'a pas vraiment été repris. Donc je trouve ça assez regrettable. Il y a bien quelques petites bifurcations pour quelques détours, salles bonus, ce genre de trucs là, mais de manière générale, ça reste extrêmement linéaire. En tout cas, c'est ce que cette démo montre. Voilà, le combat contre Wispy Woods, le combat contre le boss arbre, il est très créatif, je trouve, dans les différentes phases. Donc ça augure du bon pour le reste du jeu en ce qui concerne les combats contre les boss. Ils ont l'air d'avoir, comment dire, sorti la carte de l'originalité. De même, l'association et l'usage des pouvoirs que Kirby absorbe au fil de l'aventure est très prometteuse. En fait, par exemple, tu peux avoir un de tes potes dans ta team qui a le pouvoir de glace, toi tu as le pouvoir de roche, et ensemble vous pouvez être le pouvoir curling qui dévale tout sur son passage, et c'est assez chouette de pouvoir assembler comme ça différentes capacités, différents pouvoirs. Le cadre en termes vraiment purement d'écran, il est très rapproché des personnages, et ça c'est typique d'un jeu de plateforme mal foutu, puisque ça laisse pas beaucoup de place pour du level design complexe, pour du level design intéressant, et je trouve ça dommage. Le contrôle du personnage, il est parfois un petit peu trop complexe, on sait pas trop sur quel bouton aller pour lâcher son pouvoir, faire en sorte que l'un d'autre, un ennemi devienne son ami, etc. C'est quand même assez confus. Alors ils ont essayé de régler ça avec un tuto qui va vraiment te le répéter 15 fois, mais ça aide pas énormément, je trouve. Les temps de chargement sont extrêmement longs. Alors voilà, ça, on revient sur un point très important par rapport à Kirby Star Allies. C'est le mauvais arbitrage technique performance contre graphisme. Justement, on en causait avec la Xbox One X qui rejoue les jeux Xbox 360. C'est tout ce problème-là. Ils ont été trop ambitieux sur ce à quoi ce jeu pouvait ressembler, qu'ils ont droppé la fluidité. On a du 30 images par seconde, on a zéro anti-aliasing. C'est super moche sur un écran de télé, je peux vous le dire. Sur écran portable, ça va, mais sur un écran de télé, c'est une cata.
Peut-être parce que c'est la démo bêta, je sais pas quoi, non ?
Ça m'étonnerait parce que, comment dire, ils ont pu data miner le jeu avec énormément d'infos. Ça signifie que c'est une build quasi finale qui a été limitée. Mais la démo a été data minée par plein de fans de Kirby qui ont pu découvrir notamment le nom de plein de niveaux dans le jeu. Enfin, ils ont toute la structure du jeu grâce à la démo. en décompressant en décompressant les données du truc. Donc non, c'est vraiment vraisemblablement une build extrêmement extrêmement tardive du jeu final, et du coup ça augure vraiment pas du bon. C'est vraiment dommage, et le feeling est un peu mou. C'est dommage parce qu'en y jouant et en insistant un petit peu, j'ai fini par apprécier le truc en y mettant bien 30-40 minutes plutôt que les 10-15 minutes qui te suffisent à faire le tour de la démo. Mais les 10-15 premières minutes, t'as un peu mal, quoi. Et c'est vraiment le signal d'un jeu qui a mal été optimisé. C'est vraiment dommage, c'est vraiment regrettable, surtout de la part de HAL.
Mais c'est dommage, la Switch est sortie il y a longtemps en plus.
Surtout de la part d'un first party, ça fait un an. Ça fait tout juste un an. Mais c'est vraiment regrettable que ce soit comme ça. En plus, la direction artistique est vraiment chouette, mais elle est pétée par cette technique. En fait, pour les personnes qui ont joué à Yoshi Woolly World sur Wii U, si vous vous souvenez bien, il y avait tout le hub. C'est-à-dire toute la période de sélection de niveau qui était en 30 images par seconde et qui était un petit peu pâteau, il y avait un retard sur les contrôles, etc. Et tu te lançais dans un niveau, 60 images par seconde, le jeu répond parfaitement, tout va bien. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu arrives sur l'écran titre, c'est magnifique, 60 images par seconde, le modèle de Kirby qui se balade sur l'écran, c'est merveilleux. Tu lances le jeu, t'es sur le niveau, 30 images par seconde, zéro anti-aliasing et le feeling un peu pâteau. C'est vraiment dommage que ça ait été fait comme ça. Et puis, je sais pas si c'est une question de compression d'assets, je sais pas quel est le problème, mais il y a très souvent des temps de chargement dans des mêmes niveaux, alors que c'est un jeu 2D, des temps de chargement qui sont relativement longs, et surtout, dans un des cas de figure, j'en ai eu un qui a suivi l'autre en même pas 40-50 secondes de gameplay. Et là encore
c'est
une fois
chaud.
C'est dommage, et je suis sur mémoire interne, on n'est pas
oui,
sur une
oui,
console
voilà,
à disque,
c'est pas la PS2 quoi,
je suis sur la mémoire interne, donc il est beau, c'est pas le problème. Enfin, je veux dire, artistiquement, il est très chouette. Hein. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont poussé le curseur un peu trop loin en termes de regard, tous les effets de transparence, d'éclairage, etc. Il fait des trucs fantastiques sur ce genre d'effet-là. Mais l'optimisation, là, elle est loupée. À mon avis, ils ont visé trop haut pour la Switch, ce qui est dommage. Donc, Kirby Star Allies, c'est potentiellement un plutôt bon jeu. Mais là, ce que la démo montre, c'est qu'il va falloir vous habituer au feeling, il va falloir vous habituer au contrôle. Le level design va être extrêmement linéaire, il va être extrêmement simplifié, donc à voir avec le jeu final, mais je suis vraiment pas convaincu. C'est l'heure, mon cher Arnaud, avant qu'on passe au dossier, au calendrier oui. de la cartouche. Calendrier de la cartouche, les jeux qui vont sortir entre le 10 et le 23 mars, des jeux notables, on va pas tout faire comme d'habitude, mais on fait un petit peu les highlights. Et les highlights, c'est Devil May Cry HD Collection, un hack and slash, donc 13 mars sur Windows, PS4, Xbox One, il était déjà sorti sur 360 et PS3 en son temps. Burnout Paradise Remastered, jeu de voiture qui font boum boum. On est content, Burnout Paradise qui revient quand
ça,
même.
On y a passé beaucoup trop de temps.
Exactement, le 16 mars sur PS4 et Xbox One, je rappelle pour ceux que ça intéresse que tous les DLC sont dedans, ce qui n'était pas le cas si vous achetiez la version PSC après.
Mais ça va être beau
hein,
parce que déjà à l'époque il était beau. Mais alors là, si en plus il est remasterisé.
Trailer. Je sais pas si t'as vu le trailer, personnellement j'étais pas super content.
Non, ça veut rien dire les trailers. Mais... Oh. Alors si le trailer est moche, cela dit.
On va voir. Kirby Star Allies, bah, je vous en parlais, plateforme, ça sort le 16 mars sur Nintendo Switch. Sea of Thieves, du jeu de flibustry et d'action multi, ça sort le 20 mars sur Windows et sur Xbox One. Way Out, action aventure, sortie de prison, ça sort le 23 mars sur Windows, PS4 et Xbox One. Et enfin, je sais que tu l'attendais Arnaud, donc je te le dis.
Ah bah oui.
Détective Pikachu.
Ah bah oui.
Sorti au Japon il y a un petit moment, et voilà la localisation européenne. Bah c'est peut-être ça les jeux 3DS dont ils vont parler le 8, enfin demain, dont on a déjà parlé dans l'actu, donc c'est dangereux pour vous parce qu'on en a peut-être déjà parlé, mais dans le Nintendo Direct. Et on va peut-être rajouter une couche sur Détective Pikachu, c'est ça les jeux 3DS qui faisaient partie de l'annonce. Ah, on verra bien si c'est ça. Enfin vous le savez déjà, chers auditeurs et auditrices. Bisous à toutes et à tous. Puzzle Game et Point and Click Detective Pikachu qui sort le 23 mars sur Nintendo 3DS. Et puis, je fais une petite annonce rapide. Le 17 mars de 15h à 18h à Paris 11e au Tank, à l'espace Le Tank, au rez-de-chaussée du Tank, LOL Japon numéro 50, épisode anniversaire de LOL Japon. Chopez vos billets et tous les détails sur radiokawa.com/blog. On m'a glissé dans l'oreille qu'il y aurait plein de France 5 qui serait là. Donc si vous voulez aller voir les France 5 et si vous voulez voir l'équipe de LOL Japon concombré à mots en plein délire pendant 3 heures, c'est un événement public à ne pas louper. Et puis si vous ne pouvez pas y être, radiokawa.com/live pour l'écouter. en direct, voilà, hein, comme son nom l'indique.
Si ça fonctionne.
J'ai envie de vous dire, voilà, les billets, les détails, radiokiwa.com/blog, vous cliquez sur la première entrée qui est celle-là pour cet événement spécial. On revient dans un instant avec le dossier.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
Vous écoutez La Cartouche, nous sommes de retour. Arnaud, tu es toujours avec moi.
Ben, je suis toujours là.
Oui. Au pied levé pour remplacer Lou Lassena Foubar, Foubar 2000. Qui n'est pas là aujourd'hui, qui prend du repos et il en a bien besoin. On en a tous bien besoin en vérité. Mais voilà, il a gagné le droit d'être le premier à en prendre. Le dossier aujourd'hui est très taillé sur mesure pour toi, Arnaud. On va discuter d'être joueur et de ne plus avoir le temps. Axé un petit peu en différents points en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on est un joueur mais que la vie nous rattrape? Et c'est le cas de pas mal de nos auditeurs hein, qui vivent un petit peu leur passion du jeu vidéo à travers des podcasts et un peu moins à travers le jeu lui-même. Pour discuter un petit peu de ton point de vue sur ce genre de questions-là. Je réagirai également parce qu'il est clair qu'en ce moment, je suis très pris avec le jeu vidéo. Généralement, j'y joue pour pouvoir en parler.
De manière professionnelle,
cartouche.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Tu testes Kirby, machin, qui n'est pas optimisé. Voilà.
C'est devenu...
Kirby, pardon.
Oh, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de comité de la prononciation du Kirby.
De toute façon, c'est la Kerbance.
Il n'y a déjà. Que des gougnafiers qui disent « le Game Boy ». Et donc,
et la Wi-Fi.
Je voulais et la Wi-Fi surtout, voilà. La Wi-Fi, des générations entières de gens qui auraient mieux fait de se taire. Premièrement, sur le fait de ne plus jouer du tout, je voulais te poser la question. Tu me dis, toi Arnaud, t'as plus le temps de jouer. C'est ce que tu me dis en général. Est-ce qu'il y a des exceptions à ça?
Bah non, en fait, même j'ai déjà à l'époque où j'avais le temps d'être devant un ordi quelques heures par jour, j'avais déjà plus le temps de jouer. Alors maintenant que j'ai même plus le temps d'être, en moyenne je jouais 10 minutes par jour harmonisé sur une semaine sur ordinateur, là tu vois ça va me faire une heure et demie. Le fait qu'on fasse la cartouche. Mais sinon, c'est atroce parce qu'il y a la vraie vie qui m'a rattrapé. Je me retrouve à la tête d'un espèce de Farmville IRL qui s'appelle un appart et une copine.
Oh.
Il faut s'occuper de tout ce joli monde et tout ce joli environnement. Mm-hmm. Et voilà, non, mais c'est horrible quoi. Il n'y a plus le temps du tout faire quasiment rien quoi.
Je vais essayer de faire l'avocat du diable, en tout cas de chercher la petite faille dans ton raisonnement. Est-ce que ça t'arrive quand même d'arriver chez des amis, il y a une fête, il y a un truc, il y a un machin, et bam! Il y a un spot qui se libère dans le Mario Kart qui se passe ou dans le Tower
Fall. Alors, c'est très rigolo. Mais ouais. Alors, ça arrive.
Qu'est-ce qui se passe?
Pas chez les amis, ça arrive chez les beaux-parents.
Ah!
On fait un Mario Kart 8! Alors, plutôt les fêtes, c'est plutôt ambiance, on boit des coups, quoi. Donc, hélas, ça n'arrive pas. Et Mario Kart 8, je l'ai jamais eu, mais je connais quand même un petit peu les courses et le jeu parce que j'y ai joué exclusivement chez les beaux-parents. Voilà.
C'est les beaux-parents qui.
Donc, c'est pas foufou en écran splitté à 4 d'ailleurs, et c'est horrible.
Ah bah,
horrible.
Tu passes en 30 images par seconde.
Ah oui, déjà, mais en plus, c'est petit, quoi. Je suis bigleux, moi, dans l'affaire. Donc, non, c'est pas ouf. Et alors, je fréquente pas assez de potes gamers, en fait. Ça aiderait, genre, je me ramènerais chez quelqu'un. Ah, il y a un spot qui se libère dans Counter-Strike.
Viens en Suisse. Hein. Viens vivre en Suisse.
Ah, oui.
Bien.
Ou des jeux de mon enfance. Et bon, dans ce cas-là, je sais pas ce qui se passerait. Je serais absolument enchanté. Mais alors, après, c'est partagé, hein, parce qu'on parlait de le magot tout à l'heure. Donc,
oui.
Julien Escalas. Parce qu'il faut dire Julien, les prénoms, n'est-ce pas?
Mais oui, mon cher Arnaud.
Et en fait, on avait fait ça après une émission de Radio Kawa en live. On avait fait ça, pas en live justement, on l'avait fait entre nous, entre vieux de la vieille. On avait lancé une LAN de Counter-Strike. LAN étant un bien grand mot, parce qu'évidemment, on devait passer par Internet, par Steam et tout. Hein. Le temps de Counter-Strike 1.5.
On avait fait du Jackbox. Aussi, il me semble.
On avait fait du Jackbox, mais ça, on le fait régulièrement. Et
c'est vrai.
L'aspect gamer est beaucoup moins présent, mais je veux dire, là, on se retrouvait tous entre plein de gens qui avaient joué à CS quand ils étaient petits. Je pense que ça concerne, je dirais 35% des auditeurs de l'émission.
Ouais.
Les autres étant tellement jeunes qu'ils ont joué juste à LOL quand ils étaient petits. Enfin, ils connaissent pas CS 1.3.
Ils y jouent encore et c'est le seul truc. C'est le seul truc auquel ils jouent et je ne sais pas pourquoi ils écoutent cette émission parce qu'on ne parle jamais de LOL.
Peut-être en jouant. Ouais. Et du coup, on se retrouvait tous entre vieux de la vieille. Et là, putain, c'est comment qu'on achète une arme déjà? C'est comment qu'on prend la calache? Alors, c'est non. B, 4, 1. Ah non, c'est 2 maintenant, ça
c'est
a changé avec 1.6.
Putain. C'est moi aussi.
Voilà, donc, non, c'est un vrai drame. On a tous envie, mais on aurait tous envie que les journées fassent 28 heures ou 30
oui.
heures en fait.
Non, non, moi j'ai une autre théorie.
C'est un vrai problème.
J'ai une autre théorie, c'est le 8e jour dans la semaine.
Ouais, moi, il y a un jour pour se détendre.
C'est ça. Un jour pour... on l'appellera le dimanche.
Non, mais alors en vrai, par contre, je passe du temps dans les transports.
Ah, voilà, bah, j'allais y venir.
Comme beaucoup de gens, ouais. je prends un peu la voiture, mais peu parce que je suis en Île-de-France, donc je suis en banlieue parisienne, en banlieue est, si vous voulez venir.
Je suis à Paris, donc la voiture est un lieu maudit.
Donc la voiture, non, c'est pas évident. Et du coup, dans les transports, franchement, s'il y avait un moyen de jouer avec ses copains en temps réel dans les transports, je pense qu'on le ferait tous. Mmh. Mais l'infrastructure étant ce qu'elle est, la 3G étant ce qu'elle n'est pas généralement dans les transports, et les terminaux n'étant pas encore assez évolués en puissance et en batterie, on peut pas encore. Je pense dans 5-10 ans, on peut faire ce qu'on faisait sur ordi en LAN il y a 10 ans, on peut le faire dans les transports. Mais c'est ça en fait qui me permettrait de
rejouer,
parce que j'ai jamais touché Candy Crush.
Ceci dit, tu sais, non seulement la Switch peut faire tourner des jeux et peut faire tourner des jeux en multilocaux. Non, elle peut faire tourner mieux que ça. Attends, je vais venir au jeu mobile. T'inquiète pas. Te précipite pas, on a tout un dossier à meubler. Non, plus sérieusement, la Switch peut déjà faire tourner des jeux locaux vraiment de manière décente en termes de ce que ça propose en termes d'expérience. Mais même, je veux dire, une Nvidia Shield peut faire tourner Portal, donc à mon avis, elle peut faire tourner une version un peu early de Counter-Strike. Donc techniquement, c'est déjà potentiellement faisable.
C'est faisable. On avait déjà fait des achievements de trucs impossibles à regarder et à faire simultanément.
On avait fait du Half-Life 2 Deathmatch à plusieurs milliers de kilomètres d'écart, des conneries comme ça.
C'est vrai. Ça, c'est oui, mais maintenant, je veux dire, on est quand même à l'époque où, on est dans une période technologique qui nous permet de faire un Skype quasiment sans lag depuis un TGV, parce qu'il y a du Wi-Fi et qu'il est fiable. J'ai connu l'arrivée du Wi-Fi dans les TGV, c'est genre en 2007, c'était incroyable de pouvoir faire un Skype. J'ai dit, oh, direct du TGV, maintenant, c'est banal en fait.
En Suisse, on l'attend toujours. Hein, mais...
Oui, bah, vous attendez aussi les TGV en Suisse.
Non, c'est pas
un autre problème, mais bon.
On a des régions express et des intercités, hein.
Mais non, ce que j'avais déjà fait, c'est on s'ennuyait terriblement en train avec ma copine et qu'on a du coup téléchargé Worms Reloaded, je crois, sur 2D, sur Steam, qu'on a téléchargé du coup en 4G avec le portable branché. Tout, on a téléchargé 2,5 Go en 10 minutes et on a pu y jouer à grande vitesse. Mais voilà, c'est anecdotique.
Ok. Et sur ton téléphone, est-ce qu'il y a des jeux?
Sans
l'iPhone.
Donc j'ai un iPhone.
Sans l'iPhone.
Et qui est un iPhone SE et qui a 6 mois. Donc en termes de batterie, bon, ça tient une heure quoi. C'est en usage intensif. Donc,
Comment tu
Mais vous savez qu'il y a eu des problèmes en fait.
Ça, c'est un sujet pour Tech2.
Il y a eu des problèmes de batterie et que c'est tellement la merde qu'il limite, il bride la. Enfin, Apple a mis une mise à jour pour brider la puissance des processeurs quand il détecte une batterie travaille. C'est évidemment le cas de la mienne. Donc la batterie est déjà vieille.
Va la remplacer, c'est 30 $.
29 €, ouais, il faut que j'y aille. Aille.
Alors, par contre, vas-y vraiment bientôt. Alors, ça, je dis aussi pour tous les auditeurs et les auditrices que ça intéresserait.
Ils vont arrêter
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils arrêtent à la fin de l'année. Le tarif 30 €, il est de janvier à décembre. Mais le problème, c'est qu'il y a des grosses listes d'attente parce que tout le monde en veut.
Oui, c'est vrai. Non, il faudrait que je le fasse.
Bougez-vous les miches maintenant pour l'avoir avant décembre.
Je me suis pris quelques jeux de Tower Defense.
Ah.
Qui était la série des Kingdom Rush. Qui est franchement bien sympa. C'est pas extrêmement.
Donc tu joues quand même.
J'ai joué à l'époque, principalement dans la. Comment dire, les salles de bain et les transports, mais comme tout le monde, de toute façon, qui joue à des mobiles.
Oui.
Mais voilà, non, ça pompe vite la batterie, et puis, je le fais moins maintenant. C'est vrai que je pourrais plus, mais je suis un petit peu limité par les affaires d'autonomie, qu'il faudrait que je me branche tout le temps à une batterie externe, que je pense à recharger la batterie externe, etc. etc. Donc, non. Et le fait de. Enfin, la tactilité. C'est sympa, mais y a pas ça permet pas une énorme précision en fait, surtout quand on a des gros doigts. Et du coup, je suis plutôt un mec clavier-souris, j'ai jamais fait beaucoup de FPS sur console. Donc, déjà, faire du FPS sur console, moi j'ai l'impression que c'est horriblement imprécis. Donc, alors, du tactile.
Je te rassure, sur tactile, il n'y a quasiment rien de valeur. Tu ne manques rien.
Comme jeu ?
En termes de FPS.
Oui. Non mais voilà, donc je suis un peu refroidi par cet aspect-là. Voilà.
Ils ont fait une démo technique de FPS on stage en genre 2008-2009 chez Apple, et ensuite il y a rien qui a véritablement percé dans le domaine sur cette plateforme.
Je pourrais me laisser tenter par Mario Run aussi. J'ai ma colocataire qui passe son temps là-dessus. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'elle ne l'a toujours pas acheté. Elle passe son temps à se refaire les trucs gratuits. Voilà. Bon,
Ça fait rare, le mode Remix 10, il est gratuit, hein, donc.
Voilà, je sais pas comment elle fait ça, mais ça ne me tente même pas, tu vois, le fait que Mario avance tout seul.
C'est un runner.
Snob. Voilà.
J'en parlais la dernière fois, mais un bon runner aujourd'hui sur iOS, c'est pour 5 euros Altos Odyssey. C'est très, très chouette. Voilà, je pose ça là. C'est chouette. Et si t'as pas fait le premier, c'est encore mieux, puisque voilà, celui-là, c'est le second, et il reprend un peu sur la base du premier. Donc, tu n'auras pas l'effet un petit peu. Ah oui, mais je connaissais déjà ces mécaniques de gameplay. Ce qui est assez cool. Tu l'évoquais à plusieurs reprises, donc tu viens d'emménager récemment. Est-ce que l'idée d'une console de salon, faut savoir que tu n'en as jamais chez toi. Non, chez toi là.
Oui, chez moi maintenant adulte entre guillemets.
Pour l'instant, tu n'en as jamais eu. Est-ce que l'idée te paraît intéressante?
Ah ben oui, mais c'est même prévu, parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont en marche, c'est un vidéoproje. Mm-hmm. Oh. Faut pas dire rétroprojecteur, parce que ça c'est le truc, c'est en classe, quand il y a
tous les universitaires qui sont tournés.
Ça, donc faut dire vidéoproje ou VP. Hein. Voilà, associé donc à un écran, associé à un système au cinéma, et puis donc il faut acheter tout ça c'est cher, donc pour l'instant c'est progressif. J'ai une paire de super enceintes que je peux pas alimenter parce que j'ai pas encore acheté l'ampli, donc c'est très progressif, mais c'est la PS4 qui est prévue, parce qu'elle peut lire les Blu-ray, j'espère.
Ah bah oui. Oui.
Elle peut, oui, elle peut très bien. Ouais. Tu peux avoir Spotify, tu peux avoir Netflix, enfin c'est un bon ordinateur de salon en fait. Mm-hmm. Voilà, et peut-être un jour un PC gaming branché également aux vidéos proches. Et voilà, et puis parce que je suis un Mac user.
Alors,
pour les trucs que je fais, il n'y a pas énormément de jeux, et puis je ne change pas assez souvent de Mac pour pouvoir être à jour graphiquement. Donc voilà, je préfère envisager un jour l'achat d'un PC de gaming ou d'une solution à distance pour jouer avec les machines qui sont en remote là, dans le cloud.
Oui.
Mais c'est mieux avec la fibre, pas avec un ADSL de banlieue, hein, littéralement.
Ah oui, alors forcément, les patchs sur PS4 avec l'ADSL type banlieue, ça va être...
Je vais pas aimer du tout, ça va tourner toute la nuit, ça va être horrible.
Ça va être fenu. Juste, petite question comme ça au détour, la PS4 Pro ou pas?
C'est une question de thune.
C'est 100 balles de différence à peu près.
C'est 100 balles de différence. Je sais pas à quel point ça vaut le coup de mettre 100 balles de plus pour une différence qui est pas forcément tant que ça perceptible. Je sais honnêtement pas.
Et c'est clair que si t'as pas un écran. Enfin, c'est une question extrêmement compliquée. On va pas pouvoir la résoudre aujourd'hui, mais je voulais voir si t'avais déjà.
Je serais plus le public si j'avais déjà eu la PS4 normale et que j'ai envie de l'upgrader. Je pense quand tu viens de là, tu te dis déjà 300 balles pour une console. En fait, c'est déjà pas mal. En fait, non, c'est pas cher, mais quand tu dois douiller après pour acheter des jeux qui sont ils sont pas à 5 euros, on n'est pas sur Steam.
Non, enfin, il y a des soldes PlayStation Store très régulièrement maintenant.
Voilà, mais bon. Non, Pro, je verrai. J'aimerais bien, c'est vrai qu'un peu plus de fluidité. Mais reste à savoir si c'est vraiment utilisé ou si ça reste anecdotique ou si ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas une fonction qu'elle a en plus, la Pro, genre lire des CD ou un truc qui
non, non. Elle a l'output en 4K en fait. C'est surtout ça la blague, c'est qu'elle sort de la 4K HDR, mais c'est la feature de la Pro, la feature number one de la Pro.
Mais à 30 images par seconde.
Et qui en gros upscale les jeux. Ben non, j'imagine qu'elle peut sortir des films
Oui, mais bon, il faudra avoir un vidéo proche en 4K, et ça, je vous invite à aller regarder les tarifs. C'est à peu près une vingtaine de PS4.
On revient toujours sur la même conversation, c'est les consoles. Comme la PS4 Pro et la Xbox One X permettaient toutes systématiquement de dire ce jeu-là, je le veux pas forcément plus beau et upscalé en 4K parce que j'ai pas l'écran pour, mais je le veux plus de performance, ce serait génial. Le problème, c'est que tous les jeux fonctionnent pas comme ça. Donc,
je trouve ça quand même un petit peu culotté, le principe de le jeu est pas mal, mais bon, si t'as la console meilleure, il sera meilleur. C'est bon.
Là aussi, c'est toute la polémique. Après, ce qu'on te répond, c'est ah oui, mais le jeu, même si on a cette grande avancée technique, ça fait prolonger la génération. Et toi qui n'as pas envie de débourser plus, tu vas pouvoir continuer à conserver ta console et à continuer à jouer.
Oui.
Donc, c'est un argument un peu à double tranchant. Je voulais t'informer via ce dossier, mon cher Arnaud, que tu es une cible rêvée pour une partie du marché jeux vidéo aujourd'hui. Puisque tu représentes une part de la population hors de la pratique du jeu vidéo qui peut être séduite comme les trentenaires avec Adra qui sont dragués aujourd'hui par la NES Mini, la Super NES Mini, les ersatz, les consoles clones Mega Drive, etc. Est-ce que ça marcherait, ça, pour toi ? Pour quelqu'un dans la fin de vingtaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui représente ta corde sensible, qui te ferait craquer pour du jeu vidéo, une mini-console, comme, je sais pas, une Game Boy Advance Mini, une N64 Mini, une PlayStation 2 ou une PlayStation 1 Mini avec quelques ROM dessus ? Je ne sais pas. Quel est ton...
Bah, je sais pas. Je pense que, de toute façon, si c'est mini, c'est pas cher et c'est un truc qu'on se fait offrir.
Mm-hmm. Ah, le bon cadeau. Le bon cadeau de Noël.
Ouais, c'est vrai. Après, il y a des trucs bêtement ergonomiques. Par exemple, j'ai une 3DS magnifique de couleur verte qui ne t'est pas inconnue vu que je te l'ai achetée.
S'il te plaît, elle est bleue.
Oui, enfin turquoise. Et les boutons sont tellement mal disposés qu'au bout de 5 minutes de Mario Kart, je me chope une crampe. Parce que j'ai des grosses mains pleines de gros doigts.
Je suis tellement
et que
désolé.
Par rapport à ma GBA, j'avais une magnifique GBA, mais la toute première, la blanche, qui était superbe, qui était en fait ultra ergonomique. Bon, j'avais peut-être des plus petites mains à l'époque, cela dit.
C'était le format Panda.
Ouais, non, mais c'était bien. Et du coup, l'ergonomie de cette 3DS, ça me... caca, quoi. Donc, c'est pas ouf. Je suis le premier à détester jouer avec les Nunchuk, les Wii, machin, les Wiimote, les trucs comme ça, et à vouloir des vraies manettes pro ergonomiques. Je m'achetais les Big Ben à l'époque de la PS2. Hein. J'aimais pas les manettes Sony, je m'achetais les grosses Big Ben.
Ceci
et
dit...
Là, même ma souris, là, c'est une Razer, hein, alors que je fais que de la bureautique avec. Mais...
Je vais prendre l'exemple parce que je l'ai sur le bureau, mais la Super NES Mini, la console est mini, la manette est de la même taille que l'original, et t'as un bon pad directionnel bien sous le pouce, des gros boutons qui font clic-clic.
En fait, ce qui me manque, c'est que j'ai pas eu la Super NES à l'époque.
Regarde, ils font clic-clic les boutons.
Voilà, avec clic-clic.
Mais quel un constructeur, n'importe lequel, vient et dit tel truc. Est-ce qu'il y en a un qui te ferait craquer ? Est-ce qu'il y a un nom, il t'annonce telle console revient avec 15 jeux embarqués, c'est 60€, tu prends pas.
Bah, ça dépend du prix. Ça dépend du prix, des jeux embarqués, des features intéressantes, genre...
La pause.
La batterie aussi. Ouais, la pause. Genre, est-ce que ça peut tenir dans ma petite... pas dire banane, mais mon petit sac, que j'ai pas trop à m'en occuper, que je puisse la sortir de temps en temps avec des vrais jeux nostalgie, évidemment que j'achète, mais il faut que ça soit... De toute façon, n'importe quel truc peut être achetable par n'importe qui, il faut juste très bien le marketer. Mais non,
j'ai l'impression que tu viens de nous sortir une vérité ultime qui c'est très vrai, hein, mais c'est juste
c'est hélas très vrai. Non, mais oui, on a j'ai un Advance Wars beau et jouable et sympathique et qui consomme pas de batterie et qui soit pas sur le téléphone. J'aime bien dissocier, en fait. Je suis pas j'ai connu le smartphone que trop tard dans ma vie pour aimer vraiment jouer dessus. Voilà, donc avoir une console séparée, si elle est fine, si elle est portable, si elle est confortable, si elle est, si elle est légère, si elle tient bien, et qu'il y a ce qu'il faut en jeu, et surtout que c'est pas trop cher, oui, bien sûr, bien sûr.
Si demain Blizzard annonce Diablo 4, tu fais quoi ?
Alors, vu Diablo 3... Non, par contre, Diablo 2 mobile, bon, pas de différent.
Oh, t'es vache.
J'arrive à pas
3.
Retomber dans les extensions nouveaux, déjà, c'est déjà bien. Non, alors non, par contre, ce qui me fera retomber, là, tu t'es trompé de jeu 4, mais c'est Warcraft 4.
Ah.
Alors ça, Warcraft 4, là, hélas, je n'aurais vraiment pas le choix.
on me rappelle aux affaires, enfin, c'est très...
Ah oui, non, mais c'est ça. Bon, j'ai déjà replongé 2-3 fois depuis que j'ai arrêté de jouer en 2006. J'ai quand même commencé au tout début. Hein. Donc j'ai déjà joué un an et demi à l'époque et je suis retombé 2-3 fois depuis, mais je vais essayer de pas retomber encore, mais sachant que le jeu a quand même énormément changé et que ça joue, en fait il y a de moins en moins de nostalgie, enfin si c'était 10 fois mieux avant, qu'est-ce que je fous là, mais non, voilà, donc Warcraft 4, oui, je re-signe, et Diablo 4, ça dépend comment c'est foutu, mais pourquoi pas.
Est-ce que tu suis toujours l'actualité du jeu vidéo?
Des fois, je débarque dans des week-ends en direct Radio Kawa et de facto. Non, j'ai. Bah, pff,
et
si,
comment
je
ça
vois,
tombe pour toi ?
J'ai des gens sur Facebook qui parlent de trucs et du coup, j'ai un peu d'actu, je vois des trucs, mais après, est-ce que je les mémorise ? Est-ce que je m'y intéresse ?
Donc, c'est du social et moi qui viens te dire oh là là, mon cher Jean-Paul, ben on revient.
C'est ça, ouais. Mais j'étais pas le gars qui achetait les magazines de. Si, j'ai peut-être acheté une fois un joystick, je crois. C'était le nom du magazine Joystick ?
Oui, il y en a eu un qui s'est appelé comme ça, je te confirme.
Mais parce qu'il parlait d'eau, c'est pour ça. j'étais pas un mec à magazine, donc c'est normal que j'ai pas que je suive moins, enfin que je suive pas, voilà aussi.
Il y a une anecdote très drôle là-dessus que Caf avait raconté dans Les Tauliers, quand ils ont décidé de faire la couve, je crois que c'est une couve sur WoW, une couve ou un supplément. Ouais. Le département marketing de marketing ou distribution, je sais plus. de la boîte leur disaient non mais écoutez les mecs, faut pas autant miser là-dessus, ça a pas forcément marché, etc. Ils avaient tellement honte de leur avoir dit ça à ce moment-là, les mecs du marketing, qu'ils voulaient pas donner les chiffres de vente du mag tellement ils s'étaient bien vendus.
Ça m'étonne pas. Hein.
Donc c'est très drôle que tu en aies acheté un pour cette raison-là. Voilà, je trouve ça assez amusant. Est-ce que ta culture de joueur, tes connaissances, les réflexes que tu as acquis avec ça ont une place dans ton quotidien au-delà du jeu vidéo ?
C'est dur à dire. Forcément, je pense. Hein. On s'en rend pas toujours compte. J'essaie de te sortir des exemples complets parce que sinon ça sert à rien. Ouais, quand je remplis un contenant avec des objets, genre un coffre avec plein de machins ou... J'ai toujours cette idée de l'inventaire de Diablo 2, qui était quand même très 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 limité quand on voit les inventaires de WoW et de Diablo 3 après. Donc plein de gros objets à placer et à devoir choisir dans un emplacement limité, ou le frigo ou des trucs comme ça. Bon, ça joue un peu. Il y a toujours une petite nostalgie à laquelle je pense. Hein. Non, et puis peut-être des réflexes. On ne sait pas ce que les jeux vidéo apportent sur le développement des enfants. C'est ultra controversé comme sujet. Hein. Mais... honnêtement, je saurais pas te dire. Je pense un petit peu, en tout cas une nostalgie et un mépris pour tous ceux qui jouent à des jeux mobiles de merde inintéressants. Ça c'est sûr, hein. Je suis un vieux con avant l'heure à ce niveau-là. Forcément un peu, je me mets pas à faire la course non plus sur l'autoroute en mode Mario Kart. Mmh, ça n'arrive...
Non, bien sûr.
Si, alors des fois, il y a tel tunnel qui me fait penser à celui de l'autoroute Toad ou du circuit Mario là sur 64. Mais vraiment, ça ressemble, je suis là, putain, c'est le même truc, quoi.
Mais c'est bon. Une boucle en huit, je peux pas sortir d'ici.
C'est ça.
C'est le périph' parisien.
Oh là là.
Oh là là, quelle catastrophe. Bon, le jeu vidéo en tout cas, mon cher Arnaud, ça fait partie de la pop culture.
Ah,
et la pop
clairement.
Culture, c'est au centre d'une exposition que tu co-organises au... Où est-ce que tu la co-organises d'ailleurs ? Au Dernier Bar avant la fin du monde à Lille ?
Voilà, c'est totalement ça. On avait fait une première édition au Dernier Bar avant la fin du monde de Paris.
Oh !
C'était, je ne sais plus quand, en novembre, il y a un an et demi, un truc comme ça. Donc l'idée, donc la pop culture, ok. Donc,
absolument.
C'est, en fait, c'est, non, bah, c'est la culture qu'on a... Généralement, je pense que tous les auditeurs de la cartouche...
Le cinéma, les comics, le jeu vidéo, etc.
Voilà, et là-dedans, il y a des héros, c'est un peu généralement, c'est un peu inintéressant. Et puis, il y a les méchants qui sont quand même beaucoup plus sympas. Mmh. Et le concept, c'est qu'il y a des artistes qui font des œuvres qui sont geeks. Et bon, pour chaque expo, il y en a une trentaine, et qui font des œuvres d'art magnifiques et extrêmement variées sur tous les supports et sur tous les méchants possibles de la pop culture. Et en plus, vu que c'est une œuvre d'art, vous pouvez les acheter et les ramener chez vous. Donc voilà, on a une page Facebook qui en parle. Je vous invite à chercher. On a un site aussi qui sera linké.
C'est organisé par les Curieuses Expositions, dont tu fais partie. De ce
Je collectif. Suis le président même oh de cette association.
Oh,
et là, on remet ça au Dernier Bar avant la fin du monde de Lille.
Yes.
Donc, alors, attends, je vais
non,
sortir
j'ai les dates,
mon...
t'inquiète pas.
Oh, c'est bon.
Il est organisé quand même, le Yann. Oh, quand même. L'exposition donc a lieu du 31 mars 2018 au 26 mai au Dernier Bar avant la fin du monde de Lille. Le vernissage,
yes.
le vernissage, bien sûr.
Vercidage,
le oui. vernissage aussi aura lieu le samedi 31 mars à partir de 19h. Et puis, conférence du président, conférence de Monsieur Arnaud Condé le dimanche 1er avril 2018 à 14h, sonnante et trébuchante.
Donc peut-être 14h30 en fait.
Ok, conférence qui sera d'ailleurs disponible ensuite en podcast sur radiocura.com dans la rubrique émission spéciale. Si vous êtes abonné au flux podcast émission spéciale, vous allez la recevoir. À quoi sera consacrée cette conférence, mon cher Arnaud ?
Alors, on a trouvé un titre très sympa
oui.
que j'ai plus en tête. On s'est brainstormé en fait. Et non, mais l'idée, c'est comment monter son événement geek. Alors moi, j'avais un nom, c'était genre Entre Simulator 2018. Mais mon binôme, ma colocataire, a refusé ce nom. Elle trouvait que c'était pas assez sérieux. Donc, je sais pas, on a changé de titre, mais il est cool aussi. Et je ne l'ai pas en tête, mais en gros, on va vous expliquer comment monter un projet, dans quels écueils il ne faut pas tomber, en parlant un peu de nous, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté dans ce projet d'expo, parce que ça a quand même marché pas trop mal. Bon, il y a eu des ratés, mais il y a eu aussi des réussites. On a eu, je ne sais pas, 300 personnes au vernissage, on a une quarantaine d'œuvres, il y en a une dizaine qui a été vendue. Donc comment on fait ça ? Et puis voilà, puis on parlera un peu de l'expo et ça sera cool. Le Dernier Bar de Lille, c'est vraiment un super endroit. C'est un peu orienté, mais je l'ai trouvé. no offense, hein, parce que je connais de toute façon les gens de Paris, mais bien mieux que le dernier bar de Paris en termes de lieu, parce que c'est une grande maison très ouverte, très haute, avec une grande verrière. C'est hyper chouette, hyper sympa. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous êtes dans le Nord. Vraiment, vous aurez de la place à la bonne franquette, c'est chouette. Et il y aura l'expo à partir du 31 mars. Hein, voilà.
Fantastique, on rappelle les dates, 31 mars, 26 mai, donc ça laisse du temps pour aller voir le dernier bar avant la fin du monde à Lille, l'exposition dans l'antre du côté obscur, volume 2. Et puis, je le disais, ta conférence sera disponible en replay sur RadioKawa.com, car l'événement est en partenariat avec Radio Kawa. Quel
copinage.
Plaisir. Exact. Ah bah oui, bah, il ne faut pas manquer une seule occasion, c'est comme ça que ça fonctionne. On revient dans un instant avec le patch.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus.
Le Japon est un podcast long format animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
Nous sommes de retour dans la cartouche, c'est l'heure du patch, constitué comme d'habitude du suivi et du courrier des auditeurs. Alors avec le suivi tout d'abord, depuis le dernier épisode, le petit DLC, le petit mode bonus pour Mario Odyssey est sorti, dans lequel tu dois cacher ou retrouver un ballon dans un différent monde. Alors c'est assez chouette, c'est en fait un excellent moyen pour vous de maximiser les pièces, si ça vous intéresse, dans le jeu, pour pouvoir débloquer des costumes. D'ailleurs c'est pas pour rien que trois autres costumes sont apparus dans les boutiques de l'univers de Mario Odyssey. C'est assez chouette. Malgré tout, c'est un caractère assez répétitif, donc n'y jouez pas non plus trop de fois à la suite, jouez-y 20-30 minutes. Voilà, c'est sympatoche, ça n'apporte pas énormément de choses, mais c'est sympatoche, et j'espère qu'il n'y a pas de nouveautés consacrées à Mario Odyssey dans le Nintendo Direct du 8 mars, parce que je ne le sais pas encore, et du coup je ne peux pas les commenter et faire de commentaires transversales par rapport à tout ça. Mais
je crois que tu pouvais revenir dans le temps, attends.
Alors oui, je peux, mais j'ai pas envie de faire 15 points de montage non plus dans l'émission. Donc on va se limiter au point de montage au début dans l'actu, si tu le veux bien.
Oh, je comprends.
Et puis également, c'est un élément qu'on suit beaucoup dans la cartouche. Life is Strange Before the Storm, la préquel de Life is Strange. L'épisode bonus qui s'appelle Farewell, réservé à la version Deluxe, est sorti le 5 mars. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, j'en parlerai probablement lors du prochain épisode de la cartouche, donc restez accrochés pour plus d'opinions de qualité sur le sujet. Côté courrier des auditeurs, bah, je suis bien désolé, mais toutes les questions que vous avez posées sont extrêmement dirigées envers Lou. Donc si Arnaud, je te demande, Lou dans Civilization 6, quelle est ta faction préférée? Bah, t'es un peu embêté.
Bah, faut demander à Lou.
Si je te demande, je voulais savoir si vous avez des nouvelles du projet Prodigy. Voilà bien longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles. Le jeu vidéo n'a-t-il pas trop la cote en ce moment? Doit-on s'inquiéter? Là aussi, t'es un petit peu embêté.
Je sais même pas ce que c'est le projet Prodigy, tu vois.
Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, attendons deux semaines que Lou revienne reposer, rafraîchi. Voilà. Les idées un petit peu changées.
Relouqué.
Requinqué, dirait-on.
Ouais, mais il y avait Lou dans le.
Oui.
Relouqué, ouais.
Oui. Très bien. C'est l'heure de la fin de ce 14e épisode de La Cartouche. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @lacartoucherk et lacartouche@radiokawa.com. Cet épisode a été enregistré les 7 et 8 mars 2018. Merci beaucoup Arnaud d'être passé par là.
Eh ben merci Yann de m'avoir invité.
Ton portfolio c'est arnaudcondé.com. Dans l'antre du côté obscur, volume 2, c'est à Lille en mars, en avril et en mai 2018. Donc précipitez-vous là-bas. Plus d'informations sur la page Facebook des curieuses expositions. Les curieuses expositions, voilà, j'allais y arriver. Je suis Yann @inkshd sur Twitter. Merci à Cédéto pour le logo, à Benji Pesk pour l'habillage. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Faites-nous vos retours. Rendez-vous dans deux semaines. À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.